chanson s'appelle America, de l'album Envers et contre tous.
Et puis, on va passer à l'interview. Il y a avec nous Serge Lemay, qui est président du syndicat des employés d'Auroi du Coq-Routy. Puis, avec lui, il y a Robert Labrec, qui est le vice-président. Donc, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Puis, dans le fond, ils vont venir nous parler de la situation qu'il y a, dans le fond, au Roi du Coq-Routy depuis le 19 juillet, mais aussi et surtout avant ça, dans le fond, pour comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Puis, on va, moi, je commencerai en leur posant la question la suivante, dans le fond. Généralement, un employeur, un patron va déclencher un lockout quand il sait que le service risque d'être, perturbé par, dans le fond, des employés qui commencent à faire des pressions. Je voulais savoir si, dans le cas présent, vous envisagiez, avant le lockout, de faire des pressions sur le patron?
Non, ça n'a jamais été... Nous autres, depuis qu'on est syndiqués, depuis 2000, on s'en est jamais pris à notre clientèle, parce que la clientèle au Coq-Routy, il faut dire avant tout, c'est que c'est eux autres le vrai patron.
Ouais.
Donc, peu importe ce qui est arrivé, nous autres, depuis la syndicalisation, jamais qu'on a ralenti sur les livraisons, jamais qu'on s'en est pris à la clientèle, peu importe de quelque manière que ce soit, ça n'a jamais été le cas. Les seuls moyens de pression... Lorsqu'on était ouvert, c'est qu'il y a eu lieu, les moyens de pression, ça a été de coller des stickers, faire voir au patron où ce qu'on avait des mandats de grève clairs, leur montrer que nous autres, notre but premier, c'était de négocier de bonne foi, de s'asseoir à la table de négo, de parler ensemble, puis de trouver des solutions, des pistes de solutions. Nous autres, nous voyons souvent la table de négo depuis 2000 qu'on négocie avec les mêmes employeurs, puis on se rend compte qu'on voyait bien qu'ils négociaient pas de bonne volonté, qu'on peut dire. On veut pas lui mettre des intentions malsaines, là, mais on voyait bien qu'eux autres... tous ceux qui ont travaillé au Coq-Routy depuis les 40 dernières années savaient qu'on sait que 10 cents pour eux autres, c'est très important. Fait que, c'est pas évident, là.
Vous dites 10 cents, ça fait, j'imagine, référence aux demandes du syndicat. C'était quoi vos demandes?
Nous autres en novembre 2000, on est rendu en 2009, donc c'est en novembre 2008. Nous autres, quand nous avions déposé nos demandes, M. Chorin n'avait jamais annoncé qu'il y avait une augmentation qui était prévue pour en mai...
Le salaire minimum, là.
C'est ça, le salaire minimum. Nous autres, on a fait nos demandes en novembre 2007. Mm. OK? M. Charest a annoncé qu'en mai 2008, il faisait 50 sous d'augmentation pour le salaire minimum. Sauf que nous autres, on ne l'avait pas prévu. Donc, ça faisait la première fois aussi qu'on attendait qu'un gouvernement québécois augmentait. Dans ma jeune vie, là, je ne me suis jamais rendu compte que le salaire minimum avait augmenté aussi rapidement que 50 cents de l'heure. Donc, nous autres, on s'attendait où ce qu'un gouvernement normal sortirait un 10-15 sous de l'heure d'augmentation. Donc, notre pourrata du salaire minimum, on le gardait toujours à 27 cents au-delà du salaire minimum. Là, ce qui s'est produit, c'est quand nous avons déposé nos demandes salariales à l'employeur, on l'a déposé avant que M. Charest annonce le 50 sous. On est arrivé à la table de négo, puis la demande était sous ce que M. Charest offrait. Donc, on s'est fait avoir, parce que nous autres, on n'a pas parlé de salaire pas avant juillet. Ce qui est arrivé, c'est que M. Charest va remonter le salaire minimum au mois de mai. Fait que là, M. Perrault, il nous a regardé en riant, en disant, ben, vous demandiez 32 cents. Vous demandiez 32 cents, on vous en offre 50. Vous demandiez 32, M. Charest vous en offre 50. Donc, on va vous payer tout le monde au salaire minimum. Fait qu'on vient de régler le problème.
Okay.
C'est juste le salaire les 5 prochaines années. C'est à peu près ça qu'il nous a dit.
Pour les 5 prochaines années?
C'est lui demander une convention de 5 ans pour les 5 prochaines années.
OK, oui. OK. Puis, c'est quoi qui a mené au lockout?
Oh, je vous dirais que le lockout, je vous dirais, c'est que nous autres, nous voulions que... Écoutez, on a commencé à négocier au mois de février. Puis, ce qui s'est produit, c'est que, comme d'habitude, on s'ostinait pour des bagatelles. C'était toujours des petites choses qui n'avaient pas beaucoup d'importance. C'est comme on demandait simplement à l'employeur de fournir des guenilles suffisantes pour qu'on soit capable de faire le ménage normalement dans une entreprise normale. On se bat, on essayait de juste lui expliquer que c'était important pour que le monde nettoie. Puis c'était toujours des petites bagatelles. Puis là, il nous traînait. Puis on avait l'impression qu'il continuait toujours à nous traîner, puis à nous traîner. On lui demandait plusieurs fois, à plusieurs reprises, à la table de négo, on lui a demandé de nous faire les offres salariales. Qu'est-ce qu'il avait à nous proposer? On voyait qu'il nous étirait. On se demandait pourquoi. Puis là, c'est là qu'on a commencé quelque peu à faire des moyens de pression. Puis pouf, du jour au lendemain, il était avec un lock-out.
Sans avertir.
Absolument.
OK. Donc, depuis le 19 juillet dernier, le lock-out est décrété. Ça fait maintenant, un peu plus de 8 mois. Puis comment ça va la situation? C'est quoi qui s'est déroulé depuis, si on veut, depuis le 19 juillet?
Mais depuis le 19 juillet, je vous dirais, contrairement à ce que le monde pense, je pense qu'on a eu beaucoup d'appui de la population. C'est même surprenant.
Ouais.
C'est même surprenant que la population... parce que c'est au-delà du syndicalisme. Hein, c'est au-delà de savoir... Tu sais, des fois, on dit souvent que le syndicat il est mal vu. Tu sais, c'est... le syndicat demande... Il exagère tout le temps. Tu sais, souvent, tu vas entendre parler du monde qui vont dire c'est ça. Chez nous, c'est pas ça. On se bat pas. Nous autres, on se bat pas pour on n'est pas parti de 9$ à l'heure pour en demander 32. Tu sais, on a parti de 9$ à l'heure. 9$, c'est 8$ pour quelqu'un qui a fait 40 ans qui travaille au coq, puis on lui demandait 32 cents de l'heure de plus. OK? On sait bien que dans une négociation, 32 cents, on dit, bof, tu sais, il va y avoir des compromis, puis ainsi de suite. Mais on se bat pour des stylos. On demande à ce que les caissières en avant aient des stylos. On demande, tu sais, on demande à ce que les jeunes qui travaillent dans les cuisines en arrière, qui paraissent propres, on demande à l'employeur, pas plus pire que chez Louis Lanchenette, où ce que l'employeur fournit des belles habits, des belles habillements pour les jeunes en arrière. Nous autres, tout ce qu'on lui demandait, c'était des T-shirts pour que les gars arrêtent de se salir avec les rôtisseries, et ainsi de suite, pour qu'ils paraissent bien. Tu sais, je vous dirais qu'on n'a jamais exagéré parce qu'on lui demandait qu'il nous fournisse des outils de travail normal, un couteau à tomate. Tu sais, pas un couteau à 1,99$, mais un couteau à tomate qu'on peut se faire sans s'ostiner à faire 150 clubs par jour. Parce que, comme on le dit si souvent, c'est que les poutines les clubs, c'est des gros vendeurs au coq.
Moi, je voudrais rajouter que. Là-dessus, sur ce que Serge disait, c'est que, dans le fond, nous autres, pour les gens qui ne savent pas, là, le Roi du Coq Rôti, c'est la plus grosse rôtisserie au Québec. Alors, nous autres, nous estimons que on se doit d'avoir, je pense, peut-être le meilleur équipement de cuisine au Québec. Quand t'es le plus gros, t'es le plus gros. Alors, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on était souvent obligé de travailler avec l'équipement rudimentaire, tu sais, fait que quand t'es à table de négo puis t'es obligé de te battre avec des choses comme Serge vient d'expliquer, ben c'est un petit peu déprimant. Puis pour ajouter sur le lockout, je dirais que depuis le lockout, il s'est vraiment pas passé grand chose, tu sais. On a eu quelques séances de négo.
J'imagine aucune nouvelle aussi de la part des patrons.
Hein. Non, aucune nouvelle.
Ils sont pas en France ou quelque chose comme ça?
Cet été, il y en a un des deux frères qui est parti en vacances et puis. Ça semblait pas le déranger plus que ça que le lockout soit là, de faire un lockout. Et puis, à son retour, on a eu quelques séances de négo, mais on voyait bien que ça avançait pas du tout. Fait que les dernières nouvelles qu'on a eues, si je me trompe pas, Serge, c'est qu'il était en réflexion et puis ça se continue.
C'est ça,
simplement.
Ouais. Parce qu'il faut dire que le 19 de juillet, c'est ça, c'est que l'employeur avait prévu. Comme n'importe qui, prendre des vacances, puis il dit, regarde, c'est ça, là, vous voulez commencer à faire des moyens de pression, c'est ce que nous autres, on a compris, là, OK? C'est, je mets la clé dans la porte, je m'en vais en vacances, moi, puis arrangez-vous, puis... Fait que c'est comme ça qu'on l'a vécu, là. Mais je veux dire, on n'a pas d'agressivité. Je pense que tout, présentement, là, tout le monde qui passe sur la rue Camiran voit bien qu'on n'a jamais été agressif, on n'a jamais cassé rien. Tout, nous autres, nos seules choses qu'on fait, c'est qu'on s'installe là, on se promène avec nos pancartes, Nous autres, c'est un happening quasiment tous les jours. On se placote. Il y a beaucoup de monde qui vient nous visiter aussi. T'sais. Fait que ça n'a jamais été... Là, en aucun moment, nous autres, on s'en est pris à personne. Ouais. On peut, l'employeur ne pourra pas dire qu'on est cochon à rien. C'est le contraire. C'est que l'employeur, d'instinct ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'il a même donné ordre à son gars de cour de ne pas ouvrir la cour, de faire juste une trace dans la cour pour être sûr, certain qu'on s'aille dans 60 pieds de neige, là, t'sais, juste pour rire de nous autres encore plus. Tu sais, fait que... Tu sais, là, il a installé pour à peu près 25 000 piastres de caméras autour du coq, là, pour, avec des caméras avec volume pour être sûr et certain qu'ils nous entendent pour dire est-ce que c'est de la bébelle pour eux autres, là. Fait que...
C'est étonnant de la part d'un patron aussi gratuit d'installer autant de matériel de surveillance.
Oui. Ben, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que nos demandes salariales, puis tout ça, étaient tellement... on le considère encore comme ça... minime, et puis que tu vois qu'eux autres, ben, en faisant leur carte, ils ont une immense perte de revenus. Et en plus, on les voit installer un système de caméra comme ça qui coûte peut-être, je sais pas, 15, 20, 25 000 $ Alors que pour régler la situation puis le conflit, ben écoute, ça aurait coûté seulement quelques dollars, peut-être le 20e de la perte encourue jusqu'à maintenant. Fait qu'on voit tout de suite que peut-être il y a d'autres raisons pourquoi là, ça persiste comme ça.
Oui. Bien, on va arrêter pour l'instant. On va aller faire une pause musicale, puis on va continuer l'interview avec Serge Lemay puis Robert Labrec du syndicat d'Oro du Coq Routy tout de suite après la pause.
C'est à Félix, 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
The day of the Geechee is gone, boy. And you going with it.
Yeah, nigga. Immortal technique. Metaphysics. The bling bling era was cute, but it's about to be done. I leave you full of clips like the moon blocking the sun. My metaphors are dirty like herpes, but harder to catch. Like an escape tunnel in prison, I started from scratch. And now these parasites want a percent of my ass cap. Try to control perspective like an acid flashback. But here's a quotable for every single record exec. Get your fucking hands out my pocket, nigga, like Malcolm X. But this ain't a movie, I'm not a fan or a groupie. And I'm not the type of cat you can afford to miss if you shoot me. Curse the heavens and laugh when the sky electrocutes me. Immortal technique stuck in your thoughts, darkening dreams. No one's as good as me, they just got better marketing schemes. I lead you to your own destruction like Spark and a Fiend. Cause you got jealousy in your voice like Starscream. And that's the primary reason that I hate y'all faggots. I've been nice since niggas got killed over 8-ball jackets and Reebok pumps that didn't do shit for the sneaker. I'm a heat seeker with features that'll reach through the speaker and murder counter revolutionaries personally. Break a thermometer and force feed his kids mercury. A&R's tried jerking me, thinking they call shots. Offered me a deal and a blanket full of smallpox. You're all getting shot, you little fucking treacherous bitches. This is the business and y'all ain't getting nothing for free. And if you devils play broke, then I'm taking your company. You could call it reparations or restitution. Lock and load, nigga. Industrial revolution. I want $53 million for my callous hands, like the Bush administration gave to the Taliban. And fuck packing grams, nigga. Learn to speak and behave. You wanna spend 20 years as a government slave? 2 million people in prison, keep the government paid. Stuck in a 6x8 cell, alive in a grave. I was made by revolution to speak to the masses. Deep in the club, toast the truth. Reach for your glasses, I'll burn an orphanage just to bring heat to you bastards. Innocent, deep in the casket. Colombian fashion, intoxicated off the flow like Doug's passion. You motherfuckers will never get me to stop blasting. You better off asking Ariel Sharon for compassion. You better off begging for 20 points from a label. You better off battling cancer under telephone cables. Technique chemically unstable, set to explode. Foretold by the Dead Sea Scrolls, written in code. So if your message ain't shit, fuck the records you sold. Cause if you go platinum, it's got nothing to do with luck. It just means that a million people are stupid as fuck. stuck in the underground. A general that rose to the limit without distribution, managers, a dealer, a gimmick. Revolutionary Volume 2, murder the critics and leave your fucking body rotten for the roaches and crickets. This is the business, and y'all ain't getting nothing for free. And if you devils play broke, then I'm taking your company. You could call it reparations or restitution. Lock and load, nigga. Industrial Revolution.
On vient d'entendre le chanteur de rap latino, marxiste, états-unien, Immortal Technique, avec la chanson Industrial Revolution.
On va continuer l'interview avec Serge Lemay puis Robert Labrec, qui travaille au Roi du Coq-Routier, puis dans le fond, qui est respectivement président du syndicat, puis vice-président. Puis ma question qui s'en vient dans le fond, c'est si vous pourriez me faire un bref historique de ce qu'est le Roi du Coq-Routier, comment c'est né, l'évolution aussi des conditions de travail, puisque moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est vos conditions à vous, les travailleurs. Puis, dans le fond, jusqu'à la syndicalisation, je pense qu'il y a eu lieu en 2000.
Oui, OK. C'est ça, c'est que moi, je peux... écoutez, dans les années 65, moi, j'étais pas, je travaillais pas au coq non plus. Mm-hmm. Nous autres, ce qu'on nous a expliqué, c'est que en 65, quand le coq aussi a ouvert sur la rue Alexandre, il y avait M. Georges Benet. C'est lui l'inventeur du coq aussi qui s'est associé à M. Perrault, qui ont été cofondateurs. Puis M. Benet, lui, c'était un gentleman. C'était un homme qui aimait beaucoup, beaucoup se faire parler de lui. C'était un visionnaire beaucoup, beaucoup. Et bien entendu, ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. Après ça, ils se sont séparés, comme toute bonne famille. Ce qui arrive souvent, c'est que ça ne fonctionne plus. Ils n'ont plus les mêmes visions. Ils se sont séparés. Et M. Benet, par après, lui, il est parti, puis il en a ouvert 18 autres. Il a fait ce qu'on appelle la chaîne Benet, Benet Barbecue, au coq de Grimby, au coq d'Anjou, au coq...
Et qui est encore en business.
Lui, il est décédé, mais c'est ses enfants et autres, ses frères et sœurs qui ont le reste de la chaîne. Ici à Sherbrooke, c'était les seuls qui étaient indépendants, qui n'appartenaient pas aux frères Benet, puis ainsi de suite. Fait que depuis ce temps-là, c'était M. Perrault qui gérait seul son restaurant de Sherbrooke. Et comme dans toute bonne famille, c'est un restaurant qui est familial, donc qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'au fur des années, il a légué à ses deux fils, à ses deux héritiers, le restaurant. Et ce qui est arrivé, c'est que, bien entendu, c'est que ses fils ont pris de plus en plus de pouvoir. Et de beaucoup à diriger, puis avec beaucoup de plaisir, je crois. Et c'est comme dans toute bonne famille, ce qui se produit, c'est que tu prends du pouvoir et tu n'écoutes plus. Tu veux pas savoir ce qui se passe, j'ai le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? C'est quand M. Perrault est décédé dans l'année 99, en 1999. 8 mois après, on s'est syndiqué parce qu'on voyait qu'il y avait un problème majeur. Puis quand vous dites un problème majeur, on a essayé de lui expliquer. On a essayé de parler avec eux autres avant. Si on n'était pas content, tout ce qu'on avait à faire, c'est de s'en aller. On a décidé de simplement se syndiquer parce qu'on s'est dit... Puis n'oubliez pas une chose, quand on syndique, c'est la majorité qui syndique. C'est pas un gars qui syndique, c'est vraiment la majorité. Donc, c'est 50 plus 1. Chez nous, ça a été plus que 50 plus 1. Ça a été 80 % du monde qui ont dit oui à la syndicalisation parce qu'on s'est dit, on aime notre job. Donc, ça vaut la peine de se battre pour... Écoutez, si on aurait voulu aller travailler ailleurs, on y aurait été. Là.
C'était des gens qui avaient quand même de l'expérience avant le vote.
C'est ça.
Ça faisait longtemps qu'ils travaillaient.
C'est ça. Avant de syndiquer, il y avait beaucoup de monde qui ça faisait 25 ans qui était là, 30 ans qui était là. On a un présentement qui a 41 ans de service. OK? Puis, écoutez, là, nous autres, quand on s'est syndiqués dans les années 2000, ça a été le bug de l'an 2000. Je ne sais pas si vous en rappelez du bug de 2000. OK, on s'est syndiqué, on était un des premiers syndicats de l'an 2000 à demander une accréditation auprès du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec nous a accrédités en tant que syndicat. Puis ce qui s'est produit, c'est sûr qu'ils l'ont trouvé dur. Là. Écoutez, là, vous arrivez avec un troisième joueur, vous avez déjà deux propriétaires, vous arrivez avec un troisième joueur qui est un groupe d'employés qui dit au boss, « Hey, attends un peu, là. Il dit, tes décisions que tu prends aujourd'hui, là, tu mets notre job en péril, chum. » Il dit, « Gars, il dit, j'ai pas de problème, là. Il n'y a pas un employé au Cocotier qui va vous dire qu'on est contre que le patron fasse de l'argent. On est d'accord que le patron fasse de l'argent. On veut même qu'il en fasse plus. Plus qu'il va en faire, mieux que c'est pour nous autres. Parce que si tu fais de l'argent, boss, on a nos jobs. La journée que tu n'en feras plus d'argent, tu vas former le coq, ça ne te fera pas de peine à personne. Donc, c'est ça qui se produit. C'est ça qu'on s'est dit, nous autres. Sauf qu'on s'est syndiqué. Le but, c'est pas de le faire former. S'il voulait le garder ouvert, qu'il le garde ouvert. Le problème, c'est qu'on s'est syndiqué pour être respecté. On demandait juste qu'on soit respecté.
Puis je pense que c'est pas un secret pour personne, hein, que dans le domaine de la restauration, c'est un domaine qui est pas qui est très difficile, hein. Les heures de travail, fin de semaine, le soir, la nuit.
Des petits salaires, puis beaucoup de stress.
Beaucoup de stress, énormément de stress, les salaires pas élevés. Alors, dans l'historique du coq, ça, c'est une chose qui était bien présente. Et puis, si tu es la plus grosse rôtisserie au Québec, c'est parce que tu performes. Et puis, au fil des années, là, ça prenait toujours de plus en plus d'expansion. Et puis... je pense qu'au niveau patronal, c'était pas reconnu, ça. Je pense que si la rôtisserie a réussi à être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'à l'intérieur de la place, il y avait des gens compétents, mais on n'a jamais été reconnu comme tel. Et puis, au fil des années, ben, à un moment donné, comme Serge expliquait, c'était jamais suffisant. Ben, on fallait toujours performer de plus en plus. Ben, bon, ben, écoutez... À un moment donné, les gens sont tannés. Puis ils ont voulu être respectés. Alors, le syndicat est arrivé comme ça.
Parce qu'ils vous niaisaient.
Absolument.
Mais vous aviez remarqué aussi que les deux frères avaient vraiment une conception plutôt différente que celle du père sur le lieu de travail.
Oui, le père était, je pourrais dire, pas nécessairement peut-être plus généreux financièrement, mais il était beaucoup plus fier de son entreprise. C'est lui qui l'avait bâti. Avec un autre partenaire au départ, bien sûr, mais il était quand même plus fier. Mais on voyait que les héritiers, si on peut dire, commençaient à négliger le commerce passablement. Fait qu'à ce moment-là, quand tu aimes ton emploi puis tu vois ça aller, bien là, qu'est-ce qu'on fait? On réagit, on fait quoi, là? Enfin, c'est comme ça, au fil des années, que, bon, la situation était devenue insoutenable pour tout le monde. Fait que...
Comment ça s'est passé, d'ailleurs, la syndicalisation? Comment les patrons l'ont pris?
Mais quand on s'est syndiqué en 2000, c'est sûr que j'en connais pas, moi, qui sont venus nous serrer la main d'un boss là, pour nous dire hey, merci beaucoup. Hein. Non, écoutez, on s'en cachera pas. Là. C'est ça. La CSN était contente de nous voir. Hein, ça, c'est bien entendu. Là. On est associé avec la CSN depuis 2000. Mais c'est sûr que l'employeur l'a très mal pris. Il l'a pris comme un affront. Puis, écoutez, là, on est arrivé à la table de négo, puis il nous disait, ben moi, je pensais qu'on était une grande famille. Mais j'ai dit, peut-être que toi, tu pensais ça, mais j'ai dit, c'est peut-être
pas ça. C'est parce que tu nous as montré.
C'est ça, c'est que quand on est une grande famille, on partage beaucoup. Hein, il y a beaucoup de choses. On partage nos peines, nos joies, notre argent aussi. Quand tu es dans la misère, c'est ça, être une grande famille.
T'as une famille dysfonctionnelle, bon mal.
Mais sauf que c'est sûr qu'eux autres, ils l'ont trouvé terriblement dur. Ouais. Puis nous autres, on s'est rendu compte depuis, je vous dirais, 2000, ce qui est arrivé, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nous ont dit « Ouais, mais depuis que c'est syndiqué, il me semble que la qualité du service a baissé. » Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans nos revendications, nous autres, notre premier slogan a été « Le service à clientèle, c'est essentiel. » Puis et là, toute notre question. Comme je vous disais tantôt, là, dans les demandes là, salariales, là, écoutez, on demandait 4 %. 4 % c'est 4 % du salaire minimum. Là. 4 % du salaire minimum, pas beaucoup. OK? On n'a jamais été exigeant. Nous autres, ce qu'on demandait, c'est respecter le client. Le problème, c'est que vous ne respectez pas le client. Si on arrive, là, puis on travaille, nous autres, là, écoutez, vous avez 500 livraisons à livrer dans une soirée. Et avant, nous étions 25 pour les livrer, ces 500-là. Depuis qu'on est syndiqué, il s'est dit, « Ah, vous avez voulu vous syndiquer, hein? Vous allez le payer. » Mais c'est pas moi qui te paye, c'est le client qui te paye. Puis le client, nous autres, on arrivait chez les clients souvent, puis le client disait, « Hey, ça n'a pas de bon sens. 1h30, t'as-tu fait le tour de la ville? Hey, t'as-tu fait des années que tu travailles là? » Sauf que nous autres, là, on n'a aucun pouvoir sur le client. On n'a aucun pouvoir sur le service à clientèle. Donc, nous autres, ce qu'on demandait aux clients, c'est plaignez-vous au vrai patron. Le patron, parce qu'en réalité, là, les frères Perrault, c'est simplement des distributeurs d'argent. Le vrai patron, c'est le client. Si le client continue à prendre la commande sans rouspéter, vous en prenez au livreur, vous en prenez à la serveuse. C'est pas eux autres qui décident de servir sa clientèle. Mmh. Servir sa clientèle, c'est l'employeur qui le décide. C'est l'employeur qui prend la décision de dire « OK, on est vendredi aujourd'hui, on est le premier du mois. » Premier du mois, c'est des grosses journées au cocotier. Donc, au lieu de mettre 5 livreurs, je vais en mettre 25 pour donner du service à la clientèle. Ouais. Sauf que depuis qu'on est syndiqué, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de service à la clientèle. Il a tout coupé. Oh, ouais. Tout ce qui était capable de couper dans tous les livreurs à temps partiel, ils ont tout coupé. Donc, nous autres, là, pour nous protéger de ça, ce qu'on a fait dans nos revendications, dans notre convention collective, on a conventionné nos horaires de travail pour pas que l'employeur y aille plus bas que ça. C'est ça, cette année, qu'on s'est battu avec les horaires de travail en disant, nos premières revendications ont été de dire, écoute, on peut pas aller en bas de ça, ça n'a plus de bon sens, on écœure les clients, on les serait plus normalement. Mm-hmm. Puis vous savez que nous autres, on n'a pas des gros salaires, les livreurs, sauf qu'on est à pourboire. Donc, si j'écœure le client, le premier qui paye, c'est qui? C'est le livreur. Mm. Si vous appelez au restaurant, vous plaignez au boss, il va être, ah, depuis qu'ils sont syndiqués, ils se pognent le cul. Mm. C'est ça la réaction. C'est quoi l'histoire? Si tu n'es plus satisfait de ton restaurant, nous autres, c'est ça qu'on lui a dit. Si vous êtes plus satisfait du restaurant, les gars, écoutez, vendez-les.
Vendez-les, faites quelque chose
à l'autre. Vous ne voulez pas le vendre aux employés, vendez-les à quelqu'un d'autre. C'est pour ça, nous autres, si vous regardez dans les journaux le 19 juillet, puis ainsi de suite, quand c'est arrivé un lock-out, on n'a jamais été à la... en disant, on va se cacher. Écoutez, une coopérative, c'est viable. Un autre acheteur, c'est viable. Écoutez, ça fonctionne seul. Le coq routier ne fonctionne que par ses employés. Ouais. L'employeur, il est là seulement pour distribuer les payes, puis fait passer des commandes.
Puis surtout pour aller prendre l'argent.
Ben, c'est nous autres, ce qu'on trouve aussi, ce qui nous scandalise énormément, puis ça, on en parle très, très souvent, on a le temps de jaser pas mal de ce temps-là, nous autres, c'est le non-respect des employeurs vis-à-vis de la clientèle. C'est pas croyable. C'est une clientèle fidèle depuis des années, et puis du jour au lendemain, pour des motifs là que, bon, exemple, bon, t'acceptes pas que tes employés soient syndiqués, ben là, écoute, tu t'en vires d'abord et puis tu négliges ta clientèle, tu veux encore, comme Serge disait, couper dans les horaires de travail des livreurs, couper dans les gars de cuisine en arrière. Je sais pas, mais ça demande, c'est une bonne réflexion à faire. Quand tu vois une attitude comme ça par des gens qui sont très, très, très riches, on n'a rien contre ça, au contraire. Mais je pense qu'on fait partie de ceux qui les ont enrichis, comme la clientèle de Sherbrooke et les environs. Alors, je sais pas, ça porte à la réflexion.
Vous auriez au moins votre mot à dire, ça.
Ben, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est bien légitime, hein?
Puis,
on s'en va faire une courte pause.
Oui.
Ça va être assez... ça va être une pause musicale. On s'en va écouter Yves Jamais avec la chanson « Y en a qui » tout de suite avant la météo.
On attend les 27 janvier. Pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé. Il y aura ennuagement graduel au cours de la nuit et le minimum prévu est de moins 21 degrés. Et pour demain mercredi, ce sera nuageux. Il y aura de la neige débutant tôt le matin et les accumulations prévues sont...